l'Évangile et il dit que ces miracles ont été écrits afin que nous croyions que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant en lui, nous ayons la vie. Et les miracles ont une signification importante parce qu'ils transmettent un message. Et lorsque Jésus changea l'eau en vin, ce miracle visait à nous enseigner qu'il est la réponse de Dieu aux déceptions de l'homme. Lorsque Jésus a guéri le fils d'un officier du roi, ce miracle visait à nous enseigner qu'il est la réponse aux doutes de l'homme. Et ce matin, nous allons voir à travers un autre miracle que Jésus veut nous enseigner qu'il est la réponse à l'handicap, aux handicaps de l'homme. Je vous invite à tourner avec moi dans l'Évangile de Jean, chapitre 5. Et pendant que vous cherchez ce passage, eh bien, Isaïe dit dans son livre, au chapitre 40, les versets 30 et 31, que les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Isaïe parle ici, il y a un jeune qui vient de s'éclater là. Isaïe parle de nous ici, Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, que nous connaissons le Seigneur, nous ne perdons pas courage, parce que même si notre corps matériel se détruit, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. Et c'est le spirituel qui est le plus important, parce que ce qui est mortel est appelé à disparaître, mais ce qui est spirituel est appelé à durer pour l'éternité. Et la question n'est pas de savoir ce qui va arriver avec notre corps, mais plutôt celle-ci. Possédons-nous cette force intérieure que Dieu veut que nous ayons? Le miracle que nous allons examiner ce matin va nous dire comment avoir cette sorte de force si ce n'est pas le cas dans votre vie ce matin. Mais cette force, elle est importante parce que c'est cette puissance qui habite en nous qui nous permet de résister au malin et de pouvoir vivre la vie que Dieu nous demande de vivre en Jésus-Christ. Alors, les versets 14, verset 5, nous lirons les 14 premiers versets. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Juste avant de poursuivre, simplement vous rappeler de fermer vos GSM. Alors, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Et le mot Bethesda signifie maison de miséricorde. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. En d'autres mots, des gens qui étaient sans force. C'est ce que les mots aveugles, boiteux, paralytiques signifient. Pardon. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Plus tard, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Prions. Seigneur notre Dieu, merci encore une fois ta parole, Seigneur, que tu nous as laissée. Et comme Jean veut nous le rappeler, Seigneur, afin que nous croyons que tu es le Fils, que tu es le Christ, celui que Dieu avait promis d'envoyer, afin qu'en croyant en toi, Seigneur, eh bien, nous ayons la vie éternelle. Seigneur, ce matin, tu connais les faiblesses de chacun, tu sais exactement ce dont nous avons besoin. Et Seigneur, par-dessus tout, nous ne voulons pas compter sur nos propres capacités parce qu'elles sont limitées. Nous voulons compter sur ta toute-puissance divine, afin que tu puisses manifester ta gloire à travers chacun de nous. Et je te prie, Seigneur, de m'accompagner dans ce message, afin, Seigneur, que tu puisses occuper toute la place et que je puisse m'y effacer. Et c'est en Jésus-Christ que je te prie seulement de ces choses. Amen. Amen. Permettez-moi de vous parler du contexte ici. Comme nous l'avons dit, tout se déroule autour d'une piscine qui s'appelle Bethesda. Et si jamais vous allez en Israël aujourd'hui, cette piscine, elle se trouve à 12 mètres au-dessous du niveau de la rue où ce miracle a eu lieu, près de la porte des brebis, à l'endroit même où Étienne a été lapidé. Cette piscine était une sorte de spa de santé, et tout autour de ces portiques se trouvent rassemblés des gens atteints de toutes sortes de maladies. Certains d'entre eux avaient les membres qui étaient atrophiés, d'autres étaient aveugles, mais le pire, c'est que tous ces gens qui étaient rassemblés autour de cette piscine espéraient un miracle. Et toutes les fois qu'un ange venait agiter l'eau, celui qui descendait dans la piscine le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri, quelle que puisse être sa maladie. Frères et sœurs, je viens de dire ici que tous ceux qui étaient rassemblés autour de cette piscine espéraient un miracle. Et toutes les fois que l'eau était agitée, eh bien, celui qui descendait dans la piscine le premier était guéri. Et ce matin, je suis convaincu d'une chose. Nous sommes rassemblés ensemble dans ce lieu, et je suis convaincu que Jésus encore veut accomplir un miracle dans votre vie. Vous savez, le miracle que vous avez besoin qu'il accomplisse dans votre vie ce matin, eh bien, si le Seigneur va sûrement, à travers son message, agiter vos cœurs, et si vous voulez vraiment, si vous avez un cœur ouvert pour qu'il puisse non seulement agiter votre cœur, mais aussi transformer votre vie, il est encore capable de le faire aujourd'hui. Amen. Amen. C'était un jour de fête et Jésus arriva à cet endroit, nous dit le texte ici dans Jean, en se dirigeant vers un homme en particulier. Il y avait plusieurs personnes autour de cette piscine, mais Jésus va choisir quelqu'un en particulier. On ne sait pas depuis combien de temps cet homme se trouvait là, mais nous savons qu'il était malade, invalide et paralysé depuis 38 ans. Et qu'il espérait pouvoir se jeter à l'eau le premier afin d'être guéri. Alors vous imaginez la scène, il y a une bande de bonhommes autour de la piscine qui attendent juste qu'un ange descende pour venir agiter l'eau pour que le premier qui tombe dedans soit guéri. Et on est devant le cas d'un homme qui est complètement paralysé. Alors, il devait attendre longtemps. Hein? Il devait sûrement attendre longtemps pour pouvoir espérer être guéri. Et Jésus va lui poser une question très simple, mais très profonde. Veux-tu être guéri? Moi, ce que je trouve de béni avec Jésus-Christ, hein, c'est que c'est un grand docteur, c'est le docteur par excellence. Il connaît toutes choses. Il aurait pu nous arriver et nous composer des mots longs comme ça. Et finalement, il rencontre ce paralysé, il lui dit simplement, « Veux-tu être guéri? » Et ce matin, si ton cœur est blessé, si tu as besoin d'une guérison, Jésus te dit la même chose ce matin, « Veux-tu être guéri? » Veux-tu être guéri ce matin? Ouais. Tu n'as simplement qu'à être ouvert comme cet infirme, comme ce paralysé. Peut-être qu'il y a quelque chose qui te paralyse dans ta vie et qui t'empêche finalement de recevoir cette plénitude que Jésus veut vraiment déverser dans ton cœur. Le Seigneur te dit la même chose. Veux-tu être libéré ce matin? Veux-tu être guéri ce matin? Parce que Jésus a encore la même capacité qu'il avait avant. Il a encore la même capacité aujourd'hui de te guérir. Amen. Amen. Je ne sais pas qui connaît Henri Blocher ici. Quand je dis que Jésus avait une façon très simple de parler, à la faculté de théologie, on nous a prêté deux livres d'Henri Blocher à lire. Et quand je l'ai lu, j'ai demandé au prof s'il pouvait m'en donner un en français, parce que je ne comprenais absolument rien d'Henri Blocher, qui est un grand docteur, un grand théologien. C'est pas pour le dénigrer, hein. Les théologiens, ils ont leur langage, hein. Et finalement, ben, vous savez, le pire, c'est que c'était écrit en français, hein. Mais il y avait des mots, c'était long comme ça, des mots dans toutes les pages où j'avais jamais entendu parler, je n'avais jamais lu. Et lire Henri Blocher, ça me prenait un dictionnaire, quoi, pour pouvoir le comprendre. En tout cas, à mon niveau, ça me prenait un dictionnaire. Mais c'est béni qu'avec le Seigneur Jésus, hein, c'est tellement simple, hein, et ça transperce tellement les cœurs ce qu'il dit, quoi. Veux-tu être guéri? C'est pas compliqué, hein. Il aurait pu nous expliquer en détail avec des mots longs comme ça de médecins, des mots longs comme ça pourquoi on est malade, pourquoi il y a des cancers, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. Et on se serait perdu dans les méandres. Et il arrive, il voit cet homme qui est paralysé, cet homme qui est par terre, qui est couché sur une paillasse, et il lui dit simplement, « Veux-tu être guéri? » Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. C'est le même message qu'il y a 2000 ans. Si tu souffres ce matin dans ton corps ou dans ton esprit, le Seigneur te dit, « Veux-tu être guéri? » Amen. Veux-tu être guéri ce matin? Jésus ne pose pas seulement cette question à cet homme, mais il nous pose la même question à nous tous qui nous trouvons dans cette salle ce matin. Pourquoi? Parce que cet homme représente la race humaine à laquelle nous appartenons, frères et sœurs. Jésus n'est pas simplement là dans le but de faire de la guérison et commerce, puisqu'il va guérir seulement une personne autour de la piscine, malgré le fait qu'il est écrit qu'un grand nombre de personnes se trouvaient là. Et si Jésus avait voulu, il aurait pu les guérir tous, mais ce n'est pas ce qui s'est passé ce jour-là. Je vais vous poser une question avant qu'on continue dans le texte. Pourquoi a-t-il choisi de guérir cet infirme plutôt qu'un autre? Intéressant, hein? Pourquoi a-t-il choisi de guérir cet homme plutôt qu'un autre? On va voir ce que le texte peut nous enseigner. Ce jour-là, il va guérir seulement cet homme parce que ce qu'il vise ici, c'est de faire un miracle afin de nous enseigner une grande vérité spirituelle. Il aurait pu tous les guérir, comme je viens de mentionner, mais il n'est pas venu en tant que grand guérisseur, il est venu en tant que sauveur. Et Jean écrit que ces miracles ont été mis, en Jean chapitre 20, verset 31, ces miracles ont été mis par écrit afin que nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et en croyant, nous ayons la vie en son nom. Et au Jean, au chapitre 6, il y a encore un miracle qui se produit là, et Jésus voit la réaction des gens. La réaction n'est pas celle qu'ils auraient dû avoir, et il dit, vous réagissez comme ça parce que vous n'avez pas compris le sens de ce miracle. Et c'est important qu'on comprenne le sens des miracles aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les gens courent dans des endroits où il y a toutes sortes de miracles qui arrivent, et souvent c'est des charlatans qui sont derrière tout ça. Et malheureusement, pourquoi? Parce que les gens regardent simplement l'aspect physique. Mais l'enseignement derrière le miracle, l'enseignement le plus important, c'est l'aspect spirituel. C'est l'aspect spirituel. Et j'aimerais que vous reteniez que nous ne devons pas garder les yeux fixés sur les miracles que Jésus a accomplis, mais sur celui qui a accompli ces miracles. Cela ne nous empêche pas pour autant de croire aux miracles, parce que dans chaque miracle, il y a un enseignement spirituel pour nous. Mais ce qui compte, avant tout, c'est de placer notre confiance en Jésus-Christ. Ce jour-là, Jésus n'a pas guéri tout le monde, mais un seul homme. Et il a guéri uniquement cet homme pour faire passer un message à tous ceux d'entre nous qui avons besoin de puissance spirituelle, parce que spirituellement, comme nous allons le voir dans un instant, nous sommes par nature paralysés et sans force. Ce miracle que Jésus a accompli nous rappelle que c'est en lui que nous recevons la force de vivre et qu'il est la réponse de Dieu à la paralysie spirituelle de l'homme. Permettez-moi de vous donner un exemple qui démontre comment ce miracle s'est opéré. La guérison physique, elle est quelque chose de temporaire. C'est pas vraiment ce qui est le plus important. Si vous pensez que c'est important que vous soyez guéri, et moi je pense aussi que c'est important qu'on puisse être guéri quand on tombe malade, mais probablement que Dieu ne pense pas que cela soit aussi important que nous le pensons, parce qu'il a un plus grand plan pour nous, et ce plan est totalement différent. Est-ce que vous vous rappelez de ce paralytique porté sur un lit par 4 hommes, jusqu'à Jésus dans Marc chapitre 2? Il est écrit, comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était, et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et quand Jésus a prononcé ces paroles, les scribes qui l'ont entendu vont commencer à murmurer, à se plaindre, à le critiquer. Ils vont dire, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Mais il blasphème! Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Et il avait raison. Voilà pourquoi ils disent, « Mais au juste, pour qui se prend-il? » Frères et sœurs, voyez-vous le sens du miracle de Jésus quand il dit, « Tes péchés sont pardonnés? » Frères et sœurs, qui peut pardonner les péchés? Qui? Dieu seul. Jésus est en train de leur dire, écoutez, si j'ai l'autorité de pardonner les péchés, si je suis Dieu fait homme, c'est ce à quoi sert ce miracle, c'est ce que je veux essayer de vous enseigner à travers ce miracle. Mais ils n'ont pas compris, parce qu'ils ont gardé les yeux fixés sur autre chose. Et sachant ce qu'ils vont penser, Jésus va leur dire, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Jésus va guérir physiquement cet homme pour leur enseigner une vérité spirituelle importante. Il a accompli quelque chose afin qu'ils puissent en arriver à comprendre et à croire ce qu'ils ne pouvaient pas croire dans leurs propres yeux. Comprenez l'importance de ce miracle. Ce jour-là, ce qui comptait pour Jésus, ce n'était pas de guérir physiquement cet homme, mais de pardonner ses péchés. La guérison physique a seulement mis en lumière un miracle spirituel qui était encore beaucoup plus important, celui du pardon de cet homme, celui de recevoir le pardon de ses péchés, et que s'il pouvait pardonner les péchés, Jésus était ce Dieu qui avait été fait homme. Extraordinaire, non? Dieu fait homme en Jésus-Christ. Et j'aimerais que ça rapidement examiner 3 choses ce matin qui nous aideront non seulement à vivre puissamment pour le Seigneur, mais qui nous aideront à comprendre que dans le domaine spirituel, Jésus-Christ est la réponse de Dieu à l'impuissance de l'homme à faire quoi que ce soit pour vivre comme Dieu nous le demande, frères et sœurs. Regardez, première chose que nous devons faire, si nous voulons recevoir la foi, on va revenir dans notre texte. Si nous voulons recevoir la foi que cet homme a pu trouver, la force, pardon, que cet homme a pu trouver à l'époque de Jésus, nous devons avouer notre faiblesse. Nous devons admettre que nous sommes des êtres faibles. Regardez ce qui est écrit dans Jean chapitre 5, verset 5. Là où se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Chers amis, cet homme représente vraiment ce que nous sommes, vous et moi, sans le Seigneur Jésus-Christ. Si nous voulons bien l'admettre, le problème avec plusieurs d'entre nous, c'est que nous sommes spirituellement paralysés et que nous ne voulons pas admettre notre propre faiblesse. Écoutez ce que Paul dit dans Romains chapitre 5, verset 6. « Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des pécheurs. » Et Paul est en train de dire ici que tout homme qui vit sans Christ et sans force, il ressemble à se paralyser à cet homme impotent qui était sans force sans Christ. Il représente alors tout homme, femme, garçon et fille, qui vit sans le Seigneur Jésus. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes sans force ce matin? Est-ce que vous avez l'assurance que vous, Christ habite en vous par la toute-puissance de son esprit? Alors, je vais vous poser une autre question. Si Christ habite avec la toute-puissance de son esprit en vous, vous êtes capable de dire non à toute forme de péché qui se présente devant vous. Vous savez pourquoi on a de la difficulté à accepter le texte de la première épître de Jean? Parce que pour être capable de dire non à toute forme de péché, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et le problème dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est qu'on ne sait même pas la différence entre être rempli ou ne pas être rempli. Être rempli du Saint-Esprit, c'est la condition nécessaire, comme Jésus-Christ qui était rempli du Saint-Esprit, c'est la condition nécessaire pour avoir la force, pour être rendu capable en Jésus-Christ de dire non à toute forme de péché. Quand on pêche, ce n'est pas une question de vous accuser, de vous condamner, de m'accuser, de me condamner, mais quand nous péchons en tant qu'enfants de Dieu, que nous disons oui au péché, on a besoin simplement de prendre un temps de recul, de laisser le Saint-Esprit nous examiner, de voir qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie pour que la promesse que Dieu nous fait dans la Bible d'être capable de dire non à tout péché ne se réalise pas dans ma vie et dans votre vie. C'est aussi simple que ça. Pourquoi dans le livre des Actes, il y avait une puissance qui se dégageait dans l'Église du livre des Actes? Il est écrit qu'après avoir prié, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Quand vous regardez la caractéristique qui accompagnait les parents, les chrétiens du livre des Actes, ils étaient continuellement remplis du Saint-Esprit. Ouais. Simon n'était pas rempli du Saint-Esprit. Et il voulait acheter le don. Ouais, il ne l'avait pas. Ouais. Lisez Simon le magicien, hein? Vous vous souvenez? Il ne l'avait pas. Il a demandé à Pierre, combien ça coûte pour avoir ce que tu as? Pierre, il est tombé sur la tête, hein? Pierre lui a dit, hein, prie Dieu pour pas que tu reçoives ce que tu mérites par tes paroles. Ouais. Frères et sœurs, ça, c'est le miracle de la nouvelle naissance, hein? Il est là, le miracle de la nouvelle naissance, dans la pratique. Je suis maintenant capable, j'étais sans force avant Jésus-Christ, j'étais incapable de résister au péché, ou, quelquefois, par partir de mon orgueil, mais avec Jésus-Christ, je suis capable de dire non au péché. Amen. Ouais. La seule condition pour dire être capable de dire non, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas personne d'autre, il n'y a pas autre chose qui doit prendre la place dans mon cœur que le Seigneur Jésus. S'il y a autre chose qui prend la place, tôt ou tard, on va finir par tomber. Tôt ou tard, on va finir par tomber. Ouais. Le Seigneur, il veut qu'on soit rempli du Saint-Esprit, mais s'il y a des choses du monde qui habitent dans nos cœurs, il voudrait aussi dégager, que ça se dégage, quoi. Les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble, frères et sœurs. Amen. S'il est important de reconnaître notre faiblesse, il est également important de penser à la source principale de notre faiblesse. D'où vient notre faiblesse? Regardez ce qui est écrit au verset 14. Quel était le problème de cet homme? Jésus le trouva ensuite dans le temple et lui dit, « Voici, tu es guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Frères et sœurs, qu'est-ce qui pouvait arriver de pire à cet homme qui avait été guéri? C'est que tu te retrouves en enfer. C'est aussi simple que ça, hein? Oui. Ça donne quoi de rallonger des jambes, de rallonger des bras, de donner la vue à des aveugles s'ils continuent à baigner dans leurs péchés? Mais ils sont perdus pour l'éternité, hein? Le pire, c'est ça, hein? Quand il rencontre la femme adultère, qu'est-ce qu'il lui dit? Va et ne pêche plus! Et ça sous-entend quoi? De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Parce que tu as rencontré celui qui a le pouvoir de te pardonner tes péchés. Et celui qui a le pouvoir de te pardonner tes péchés ne te condamne même pas. C'était le seul parmi tous ces pharisiens et ces scribes qui pouvaient condamner cette prostituée. Ils se sont empressés de la condamner. Et le seul qui pouvait la condamner, c'était Jésus-Christ. Il ne l'a pas condamné. Il lui a simplement dit, « Va et ne pêche plus. » Cette pauvre femme qui était livrée à elle-même, qui était sans force, parce qu'elle ne connaissait pas Dieu. Elle ne connaissait pas le Seigneur. Voilà. Mes frères et sœurs, quand on vit sans le Seigneur, peu importe qu'on se soit fait baptiser, peu importe qu'on a professé la foi, si on vit sans le Seigneur, on est sans force. Notre force, elle se trouve en Jésus-Christ. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et si je puis tout par celui qui me fortifie, je puis tout, je puis dire non à toute forme de péché qui se présente devant moi. Ouais. Sinon, il n'y a pas d'équilibre dans la parole. Ouais. Chers amis, le plan de Dieu pour nous tous, c'est que nous vivions comme il demande, mais nous n'avons pas la force de répondre à ses exigences. Et peu importe les efforts que vous faites pour vivre comme Dieu le demande, vous n'avez pas ce qu'il faut pour y arriver. Chers amis, sans Jésus-Christ habitant en nous, nous sommes sans force. Et lorsque vient le temps de vivre comme Dieu le veut, vous pouvez avoir une force de caractère pour faire les choses comme vous le désirez, mais vous n'avez pas la capacité de faire ce que vous devriez faire comme Dieu le désire. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour les péchés. Alors que vous étiez sans force, Christ est mort pour les pécheurs. Maintenant que nous avons la puissance de Christ qui habite en nous par son esprit, nous avons, pas sur la base de nos propres forces, sur la base des forces de Christ, nous avons la capacité de pouvoir vivre comme Dieu nous le demande. La principale cause de notre faiblesse, frères et sœurs, c'est le péché, cette force qui nous paralyse au point où nous ne pouvons pas être ce que Dieu voudrait que nous soyons. Regardez maintenant ce qui est la cause persistante de cette faiblesse. Jean chapitre 5, verset 5. Cet homme était malade depuis 38 ans. Pouvez-vous imaginer être paralysé, impuissant, affaibli, sans force depuis 38 ans? Qu'arrive-t-il à un homme lorsqu'il est paralysé depuis 38 ans? Ses muscles commencent à s'atrophier et à se ratatiner. On dit ça ici, ratatiner, oui. Ses muscles commencent à s'atrophier et à se ratatiner. Pendant tout le temps que cet homme se trouvait à cet endroit, son état physique a commencé à se détériorer, voire aggraver, et son tissu musculaire s'atrophie. Ainsi, frères et sœurs, en est-il de quelqu'un qui vit sans Christ? Plus il attend pour prendre une décision, et plus sa condition se détériore. Et c'est la même chose, là je parle d'un non-chrétien, mais je vais vous parler d'un chrétien. Plus un chrétien attend pour prendre une décision de vivre comme Dieu lui demande de vivre, plus sa condition se détériore, plus il est difficile pour lui de revenir à la case départ. Ouais. Vous savez, ça c'est la séduction du péché. Ouais. C'est pas grave ce que tu fais, Dieu te comprend, c'est pas grave. Et à un moment donné, on a les deux pieds dans les sables mouvants. Ce péché nous a mis dans les sables mouvants. On a énormément de difficultés à s'en sortir. On n'est pas capable de s'en sortir par nos propres forces. Dieu place des frères et des sœurs sur notre chemin. Alors, si c'est un frère, bien, Dieu place des frères sur notre chemin pour nous exhorter, pour nous encourager, pour prier avec nous. Mais on a tellement honte parce que ça fait des années, ça fait des mois qu'on vit dans ce péché, qu'on ne crie pas à l'aide et qu'on a honte de crier à l'aide à Dieu. Et on s'emboupe davantage dans les sables mouvants. Et on a perdu notre joie, on a perdu notre paix. Et on en finit par envier les frères et sœurs en Christ qui ont cette paix et cette joie parce qu'ils vivent en communion parfaite avec le Seigneur Jésus. Ouais. Ouais. Frères et sœurs, ce n'est pas possible que la croix ici, elle se limite uniquement à nous faire en sorte que nos péchés sont pardonnés, que ça se limite-là. C'est ridicule et c'est pas biblique. Christ est mort pour nous libérer de la puissance du péché. C'est pas moi qui le dis. Lisez l'épître de Romains. Paul n'arrête pas d'en parler. Christ nous a libérés de la loi. La loi qui vous condamnait. La loi, elle a été donnée. Paul l'a dit aussi. La loi a été donnée simplement pour que nous sachions que nous sommes tous des pécheurs, mais la loi ne sauve pas. Oui. Et à la croix, c'est ça le miracle, la nouvelle naissance. La vieille carcasse de Jacques, elle est morte. Et là, en Jésus-Christ, il y a un nouveau Jacques qui vient. Oui. Celui qui était sans force maintenant reçoit, je l'ai parlé la semaine passée, l'échange à la croix, reçoit la force de Christ pour être capable de vivre comme lui vit. ça le miracle de la nouvelle naissance. Frères et sœurs, est-ce que c'est ce que vous vivez dans vos vies? C'est ça le miracle de la nouvelle naissance. Je peux tomber, ça ne veut pas dire que je ne tombe pas, je peux tomber. Mais je reviens avec mon péché à la croix, il le prend toujours sur lui et en retour, il me donne son pardon. Parce qu'on est avec un Dieu qui est gracieux, frères et sœurs. Et si ce n'était pas de la grâce de Dieu, on est perdu pour l'éternité. Ouais. Vous savez que si tout le monde était rempli du Saint-Esprit dans cette Église, on serait une bombe spirituelle pour la ville de Liège, qu'on n'aurait pas besoin de méthode pour atteindre les gens, qu'on n'aurait pas besoin de savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Dieu nous mettrait devant nous ce qu'on doit faire. Il nous aurait même pas besoin de nous convaincre, nous serions convaincus. Il y a énormément de choses qu'on mettrait de côté. Toutes ces heures qu'on perd à écouter dessus du sport, toutes ces heures à ce qu'on regarde des télé-réalités, toutes ces heures où on passe devant des séries, des heures et des heures, semaine après semaine. Frères et sœurs, si on fait ça, si c'est là-dedans qu'on passe notre temps, vous pouvez être sûr d'une chose, et je vous le dis sans condamnation, on ne peut pas être rempli du Saint-Esprit si on passe autant d'heures là-dedans. Moi, je l'ai dit, hein, vous pouvez écouter 20 heures de sport par semaine, en autant que vous passez 20 heures dans la parole de Dieu. Là, on est égal. Vous pouvez écouter 20 heures par semaine de télé-réalité en autant que vous passez 20 heures dans la parole de Dieu pour que ce soit kiff-kiff. Mais en dehors de ça, eh bien, vous avez besoin de vous examiner, de vous humilier et dire, Seigneur, moi, je ne représente pas fidèlement ce que j'ai reçu à la croix quand j'étais accepté, quand j'ai pris une décision pour toi. Ouais. Je ne le reflète pas. Je ne reflète pas l'esprit d'un citoyen du royaume des cieux. Chers amis, la principale source de sa faiblesse et la force qui le paralysait pour vivre comme Dieu le demande, c'était le péché. Et c'était là la cause qui l'amenait à s'enfoncer toujours un peu plus vers le bas. Si vous savez maintenant ce que cet homme avait, ce que vous devez faire, c'est d'admettre votre faiblesse en disant, Seigneur, tu as raison, je suis sans force, je mets mon orgueil de côté et j'admets que j'ai besoin de toi. Et frères et sœurs, quand on est rendu loin, là, tout ce qu'on a à faire, c'est de s'humilier, dire, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que j'ai essayé pendant tant de temps par mon orgueil à m'en sortir. Seigneur, je rame et je m'enfonce, Seigneur. Seigneur, je m'humilie. Je mets mon orgueil de côté et j'admets mon besoin de toi, frères et sœurs. J'admets mon besoin de toi. Et moi, plus je vis dans le Seigneur, plus je lis les Écritures, hein, et plus je me demande comment Dieu a pu faire me pardonner, quoi. Ouais. Alors qu'avant, imaginez-vous, avant de rencontrer le Seigneur, j'avais rien à me reprocher. J'étais une bonne personne. Ah ouais, qu'est-ce que vous voulez reprocher un policier? Hein? J'avais rien à me reprocher. Mais j'étais une crapule, finalement, dans mon cœur. Je pensais qu'à moi. Vous savez la différence entre un cœur, entre la nouvelle naissance et quelqu'un qui n'est pas né de nouveau? Celui qui n'est pas né de nouveau, il a le cœur du premier Adam, c'est-à-dire un cœur égoïste. Il ne pense qu'à lui. Ah, il va faire des bonnes choses pour bien paraître aux yeux des gens, mais finalement, c'est qu'il pense encore à lui. Parce qu'il a besoin de savoir ce que les gens pensent de lui, donc il fait des bonnes choses, il pense à lui, sa réputation. Mais celui qui est né de nouveau, vous savez, la transformation, c'est l'échange qui est encore une fois à la croix. Hein? Son cœur égoïste, et Jésus lui donne un cœur bienveillant. Il a fini de travailler pour lui, il a fini de vivre pour lui, il ne vit plus maintenant que pour les autres. Les apparences, c'est terminé. Ce que les autres pensent de lui, il n'en a rien à cirer. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que mon Dieu pense de moi. C'est ça qui est important, et c'est ce qui motive, dans sa façon de parler, dans sa façon d'agir, c'est ce qui va le motiver. Qu'est-ce que mon Dieu pense de moi? Frères et sœurs, est-ce que vous êtes encore paralysés par le fait de savoir ce que les gens peuvent penser de vous? Ou si vous êtes dans ce courant de pensée où vous vous dites, qu'est-ce qui est le plus important pour moi, c'est qu'est-ce que Dieu pense de moi? Qu'est-ce que Dieu pense de vous ce matin? Ne le dites pas à haute voix. En laissant le Saint-Esprit vous examiner vos cœurs ce matin, qu'est-ce que Dieu pense de vous ce matin? Non seulement vous devez admettre votre faiblesse, mais vous devez vouloir être libéré. Regardez ce qui est écrit au verset 6. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? En d'autres mots, désires-tu de tout ton cœur être complètement libéré de ce qui te fait souffrir? Permettez-moi de dire que si nous voulons être libérés, nous devons le vouloir. Dieu n'ira jamais à l'encontre de notre volonté. Dieu nous a donné la liberté de choisir, mais jamais il nous forcera à choisir contre notre gré. Et peu importe ce que vous décidez, cela n'empêchera jamais Dieu de faire en sorte que sa volonté s'accomplisse. Si Dieu vous devait vous forcer à faire le contraire de ce que vous voulez, si votre relation avec lui était une relation forcée, alors vous ne seriez plus un être humain, vous seriez une machine, et Dieu ne veut pas être en communion avec une machine. Si vous voulez venir à Christ, vous le pouvez, mais si vous ne voulez pas venir à Christ, il ne vous forcera jamais. Et moi, j'ai compris une chose, la principale raison pourquoi Dieu ne nous force pas, un, à cause de notre libre arbitre, mais deux, quand on va comparaître devant lui, si on est chassé du ciel, Dieu va nous dire, on ne pourra jamais dire à Dieu, c'est de ta faute si moi je m'en vais dans cette direction-là. Parce que Dieu nous dira, écoute, un jour, je t'ai placé quelqu'un pour t'annoncer l'Évangile. Tu lui as dit que tu n'avais pas de temps à perdre pour ça. Alors, le libre arbitre, c'est une responsabilité incroyable qu'on a. Une responsabilité incroyable. Ça va nous empêcher, ça va empêcher quiconque qui va comparaître devant Dieu de pouvoir dire, c'est ta faute. Tu m'aimes moins que les autres, c'est pour ça que moi, je suis condamné. Jamais. Dieu va nous pointer des gens qui sont placés sur notre chemin. Et on s'est bouché les oreilles, on s'est fermé les yeux pour ne pas les entendre et pour ne pas les voir. La question que le Seigneur pose ici est intéressante. Pourquoi demander à un homme malade, à un homme paralysé, s'il veut être guéri? La réponse semble même évidente, elle semble voire superflue. Mais le Seigneur veut nous enseigner une deuxième vérité ici. Et cet enseignement, c'est le suivant. Jamais il agira contre la volonté de quelqu'un. Mais si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Et si quelqu'un le veut, il peut prendre de l'eau de la vie gratuitement, parce que Jésus-Christ ne rejette personne qui vient à lui. Cependant, cet homme n'aurait jamais pu dire oui si celui-ci ne lui avait pas donné l'occasion. Frères et sœurs, si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Il n'ira donc jamais à l'encontre de notre volonté, et il ne nous forcera jamais la main. Mais la question est posée, veux-tu être guéri? Jésus n'a pas dit à cet homme, veux-tu à nouveau marcher? C'est intéressant, hein? C'est intéressant. Il n'a pas dit, la logique c'était, veux-tu marcher à nouveau? Non, veux-tu être guéri? Et le mot qu'il utilise ici englobe tout. Beaucoup de gens veulent que la conséquence de leur péché soit effacée, mais ils ne veulent pas être complètement délivrés. Ils ne veulent pas vraiment devenir la personne que Dieu voudrait qu'ils soient. J'ai rencontré des gens qui avaient le sida. Tout ce qu'ils voulaient, c'est être guéris, mais continuer à vivre dans leur péché. Tout ce qu'ils voulaient, c'est être guéris, mais c'est pas faire la volonté de Dieu. Quelqu'un d'autre a une maladie qui va le rendre infirme à cause d'un péché. Et tout ce qu'il souhaite, c'est d'être guéri, mais en même temps de continuer à vivre dans son péché. Et que devons-nous faire si vous voulez participer au but que Dieu s'est fixé pour vous? Vous devez admettre votre faiblesse. Je dois admettre ma faiblesse. Et nous devons vouloir être libérés. Vous devez dire, Seigneur Jésus, oui, je le veux. L'une des histoires les plus étranges qui soit arrivée est la suivante. Elle est survenue en 1829. Je vais la lire. Un certain George Wilson avait été condamné à être pendu suite à un vol et à un meurtre qu'il avait commis dans un bureau de poste. Mais le président américain Andrew Jackson, pour une raison que j'ignore, a décidé d'accorder le pardon à George Wilson. Les autorités firent parvenir à Wilson, alors incarcéré dans un pénitencier fédéral, le pardon que le président lui avait accordé. Mais à la surprise générale, George Wilson refusa le pardon et demanda à être pendu. Les autorités ne savaient quoi faire. « Nous avons ici le pardon d'un prisonnier, se disait-il, mais voilà que celui-ci refuse ce pardon. Que fait-on avec un homme qui a été pardonné alors qu'il devrait être pendu jusqu'à mort sans suivre et qui refuse ce pardon? Est-ce que vous le prenez? Est-ce que vous l'amenez à la porte de la prison et que vous jetez dehors? Malgré lui, les autorités ne savaient vraiment pas quoi faire. La cause fut soumise au juge de la Cour suprême des États-Unis. Ceux-ci se réunirent pour étudier la question, et voici la décision qu'ils ont rendue. Un pardon est une décision dont la valeur dépend de son acceptation par la personne impliquée. Si celle-ci refuse le pardon qui lui a été accordé, elle rejette ainsi la grâce qui lui avait été donnée. Elle doit donc subir la peine pour laquelle elle a été condamnée. Frères et sœurs, Christ est mort pour que le monde entier reçoive le pardon de ses péchés. Tous ceux qui deviennent enfants de Dieu, c'est des gens qui acceptent cette grâce. Il est déjà mort pour chacun de nous. On a déjà tous été graciés. C'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette grâce que Dieu nous accorde en Jésus-Christ? Est-ce qu'on la rejette? Est-ce qu'on la refuse? Est-ce qu'on accepte de mourir comme cet homme pour l'éternité, subir la condamnation, plutôt que de bénéficier de la grâce que Dieu nous donne en Jésus-Christ? C'est la responsabilité de chaque être humain. Maintenant, qu'arrive-t-il à ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile? Ça sera un reproche qui va tomber sur l'Église, parce que c'est l'Église qui a le mandat d'aller annoncer l'Évangile à ceux qui n'ont jamais entendu. Mais je vais vous dire quelque chose de très cruel, et pourtant c'est la vérité. Ceux qui meurent sans Christ, ceux qui meurent sans avoir jamais entendu l'Évangile, frères et sœurs, ils ont ce qu'ils méritent. Ils ont ce qu'ils méritent. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est nous qui ne méritons pas. C'est nous qui recevons ce que nous ne méritons pas. Notre responsabilité est d'autant plus grande parce qu'on entend l'Évangile à chaque semaine. Il y en a, c'est 2 à 3 fois par semaine, dépendant quel ministère il fréquente dans l'Église, alors qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui n'ont jamais entendu. Parce que l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui est centrée sur elle-même, plutôt que d'aller porter ce message aux 4 coins de la terre pour que des gens puissent recevoir ce trésor que nous entendons jour après jour, semaine après semaine. Frères et sœurs, que faisons-nous avec l'Évangile en tant qu'Église? Que faisons-nous avec cet Évangile que Dieu nous a laissé en Jésus-Christ? Vous êtes attachés à vos enfants. Dans ces pays-là, les parents sont aussi attachés à leurs enfants, même s'ils ne connaissent pas le Seigneur. Et on aura à répondre de ce qu'on a fait avec l'Évangile que Dieu nous a donné. Le Seigneur ne dira pas combien de ministères que tu as fait dans l'Église, combien de ministères qui tournaient pendant ton ministère pastoral dans ton Église. Qu'est-ce que tu as fait avec l'Évangile? Qu'est-ce que tu as fait avec cet Évangile-là pour le monde qui était perdu en tant que citoyen du royaume des cieux? Qu'est-ce qu'on fait avec ce trésor que Dieu nous a donné en Jésus-Christ? Que devons-nous faire après avoir admis notre faiblesse? Non seulement vous devez accepter cette offre, mais vous devez commencer à marcher comme Dieu vous le demande. Regardez ce qu'il est écrit dans les versets 7 à 10. Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. » Commencer à marcher, dit Jésus. Hey, c'est fort, hein? C'est fort. Ouais. Eh bien, on voit ça encore dans l'Église, ces réponses-là, hein, frères et sœurs. Hein? Vous avez des chrétiens qui sont consacrés à annoncer l'Évangile. Vous avez des chrétiens qui se défoncent à venir en aide à ceux aux plus miséreux, hein? Et il y a des gens qui sont légalistes, hein? Et qui sortent des choses comme ça, hein? Ouais. Hey, c'est pas à toi de faire ça, hein? C'est pas à toi de faire ça. Il y a des associations dans le monde qui le font. Hein. C'est nos ministères, frères et sœurs. C'est notre ministère de soulager le cœur des gens qui sont blessés par toutes sortes d'abus. Rappelez-vous maintenant que le but de ce miracle, c'est d'enseigner une vérité spirituelle encore plus grande que ce miracle. Jésus aurait pu ici simplement guérir un homme paralysé, mais est venu montrer une troisième vérité spirituelle, et c'est la dernière. Il peut sauver une âme et lui donner la force spirituelle qu'elle a besoin pour vivre comme Dieu le désire. Permettez-moi de vous lire des 2 versets qui enseignent cela. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie par lui. Est-ce que vous connaissez la raison pour laquelle, quand on rencontre un non-chrétien, on lui demande de lire l'Évangile de Jean? Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils et le Christ. Est le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie. Voilà pourquoi on demande aux gens de lire l'Évangile de Jean. Jean n'a pas écrit son Évangile afin que ceux qui sont paralysés puissent être guéris. Il a écrit son Évangile afin qu'en croyant en Jésus, ceux qui sont paralysés spirituellement puissent être sauvés, qu'ils reçoivent une force surnaturelle qui vient d'en haut, et qu'ils puissent marcher jour après jour en remportant la victoire sur le péché, parce qu'ils ont reçu cette nouvelle vie qui vient de Dieu. Jésus va dire à cet homme, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Jésus veut nous faire remarquer que c'est nous qui devons prendre la décision de marcher. Il aurait pu dire à cet homme-là, « Prends ton lit, lève-toi et marche. » L'homme aurait pu dire non. Mais l'homme, il serait toujours autour de la piscine. Jésus, d'abord, c'est Dieu fait homme, il savait ce qui se passerait. Mais il était vraiment de façon ordonnée. Lève-toi, prends ton lit et marche. Frères et sœurs, si vous cherchez les versets qui enseignent clairement dans la Bible, Le salut, vous devez aller dans Éphésiens 2, 8 à 10. J'ai pas le temps du tout pour aller là ce matin. Vous lirez ou vous écouterez. Vous lirez sur Internet. Vous lirez le message sur Internet. Mais cet homme a-t-il été guéri parce qu'il marchait ou marchait-il parce qu'il avait été guéri? Il marchait parce qu'il avait été guéri. Vous n'êtes pas sauvé en faisant de bonnes œuvres, mais parce que vous êtes sauvé, vous allez mener une vie riche en bonnes œuvres. Ces œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que vous les pratiquiez, dit l'apôtre Paul. Vous ne vivez pas comme Dieu vous le demande afin d'être sauvé. Vous vivez comme Dieu vous le demande parce que vous êtes sauvé. Cet homme ne pouvait pas marcher jusqu'à ce qu'il se lève et vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne jusqu'à ce que vous vous leviez pour Jésus-Christ, frères et sœurs. Profession de foi, et après ça, dans la pratique, on se lève pour servir le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on n'est pas seulement des citoyens du royaume, on est aussi des serviteurs de Jésus-Christ. Il est écrit, puisque vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Et si vous comprenez que vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous, vous recevrez alors la force pour vivre de façon surnaturelle. Frères et sœurs, car c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ouais. Quand je demande à des gens souvent comment on est sauvés, ils nous disent, c'est par la foi, non, c'est par grâce. Le moyen d'être sauvé, c'est par la foi. Mais c'est pas la foi qui sauve. Hein. C'est la grâce de Dieu qui nous permet d'être sauvés. Et la foi, c'est le moyen que Dieu utilise pour qu'on soit sauvés. Et comment vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ouais. Voilà pourquoi il est important de citer les Écritures, de proclamer l'Évangile. La foi, elle vient uniquement de la parole de Dieu. On peut faire de bonnes choses aux gens si on n'annonce pas l'Évangile. Il est impossible qu'ils viennent à la foi. On peut être content d'aller voir rentrer dans l'Église, mais ce sont des inconvertis, ce sont des religieux qui, tôt ou tard, vont nous mettre des bâtons dans les roues parce qu'ils ne sont pas animés du même esprit. C'est vraiment important. Voilà pourquoi on ne peut pas négocier avec le message de l'Évangile. Il est écrit, chers amis, rappelons-nous ceci en terminant. Nous avons besoin de regarder au-delà des miracles et de fixer nos yeux sur Jésus. Nous croyons qu'il peut accomplir des miracles, mais nous voulons nous rappeler que ces choses ont été écrites afin que nous croyions que Jésus est le Fils de Dieu et le Christ et qu'en croyant, nous ayons la vie en lui. Pourquoi alors suivre Christ? Pourquoi être un disciple de Christ lorsque la vie risque de devenir plus compliquée pour moi, pour vous? Comme il est souvent mentionné dans l'Église, dans la parole, n'est-il pas écrit dans la Bible, il faut passer par beaucoup de persécutions pour entrer dans le royaume de Dieu? C'est ce qui est écrit. C'est une belle promesse, ça. Prenez-la, celle-là. Hein? Ouais. Prenez-la, c'est une promesse, ça aussi. Hein? Ouais. Il faut passer par beaucoup de tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Ouais. Ça, c'est une promesse. Hein? Celui qui veut me servir sera persécuté. Ouais. Ça aussi, c'est une promesse. Hein? C'est ce qui attend le serviteur de Dieu, hein? La persécution. Pas nécessairement à l'extérieur, mais à l'intérieur. Jésus n'a pas dit ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Il a laissé le choix, donc c'est en dedans et à l'extérieur, frères et sœurs. Ouais. À travers Jésus, nous voyons le visage de Dieu. Il est la vérité éternelle. Il est ce Dieu fait homme, et je sais qu'à travers sa vie, sa mort et sa résurrection, je suis réconcilié avec Dieu, lui, l'auteur de la vie. Je crois aussi que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Bien, vous allez le répéter fort parce que je rencontre des chrétiens qui sont pas convaincus que rien ne peut les séparer de l'amour de Dieu. Dites simplement, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Amen. Romains 8, 9, amen. Il a tout pouvoir, il a une bonté infinie, frères et sœurs. Voilà pourquoi je fais confiance à ses promesses. Je lui ai entièrement donné ma vie avec mes blessures et tout ce qui vient avec. Il est la seule chose certaine dans un monde incertain. Il est digne d'être adoré parce que ce Dieu, à travers Jésus-Christ, a réconcilié le monde avec lui. Il a réconcilié Jacques Hudon avec lui. Il a réconcilié Daniel avec lui, Michael avec lui, Ernest avec lui, quelques femmes aussi. Pina, Maria. C'est pas juste réservé aux hommes, la salut. Hein? Voilà. Il m'a sauvé, il m'a rendu juste devant lui, il est au centre de ma vie. Et nous sommes appelés à l'adorer et à lui offrir des prières de remerciement et d'action de grâce pour la pitié qu'il a eue envers nous et pour le salut qu'il nous a accordé en Jésus-Christ, frères et sœurs. Oh, si le Seigneur n'avait pas eu pitié de nous, frères et sœurs. Ah! Bien, on serait tous ensemble, pris ensemble, à pleurer, à se lamenter, parce qu'on serait sans espérance comme les gens du monde, frères et sœurs. Et nous sommes appelés à lui offrir nos vies, non pas dans le but de rester en bonne santé, ni même de devenir riche, ou même pour recevoir la force d'accomplir de grandes choses pour lui. Nous lui offrons nos vies en reconnaissance de ce qu'il a fait pour nous à la croix. S'il a fait pour nous à la croix, frères et sœurs, car lui seul a le droit d'exercer un droit sur nous. Et il a payé tellement un grand prix pour nous racheter, frères et sœurs. Ouais. Quel grand prix! Où était Dieu quand Jésus-Christ était crucifié sur la croix? Où était Dieu? Eh bien, il n'était pas loin d'au-dessus de la croix, hein? Ouais. Et c'est un père comme vous et moi qui voit son enfant souffrir. Vous pensez que Dieu est indifférent? Ah, 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 ah. Non, hein? Dieu pleurait, hein, au ciel. Et vous pensez que Dieu ne peut pas pleurer? Ben, lisez dans Jérémie. Hein, il y a deux endroits dans Jérémie où dans l'Ancien Testament, Dieu pleure, hein, pleure. Ouais. Ouais. Et je suis convaincu quand Dieu voit l'état de son Église aujourd'hui, il pleure. Quand Dieu voit l'état de son Église, quand Dieu voit l'état du monde à l'extérieur, il pleure, frère, c'est ça. Ouais. Mais Dieu a le droit d'exercer un droit sur nous parce qu'il nous a racheté un si grand prix. On a besoin de se rappeler du prix qu'il a payé, parce que s'il avait dû l'exiger qu'on sorte de nos poches, de nos sacoches, le prix pour devenir enfant de Dieu, on serait perdu pour l'éternité. Perdu. Il n'y a personne qui avait les moyens de payer ce prix. Personne. En dehors de Dieu lui-même. Vous réalisez? En dehors de Dieu lui-même, personne ne pouvait payer ce prix pour nous racheter. Quel grand Dieu nous avons! Quel grand Dieu nous avons. Oui. Oui. Dieu en Jésus-Christ. Dieu en Jésus-Christ nous a sauvés. Et vous êtes des rachetés par grâce. Et vous allez bénéficier. Et vous allez régner avec Dieu dans le royaume des cieux. Il y a des gens, je parle avec des gens, ils me disent, oh, moi, je suis content, quand on va être au ciel, on va se tourner les pouces toute la vie. Non, non, tu ne tourneras pas les pouces. Hein. En principe, le mot régner, ça veut dire que tu vas faire quelque chose. Hein. Je ne sais pas trop quoi, parce que Paul dit que Dieu ne nous a pas tout révélé. Hein. Heureusement, sinon on n'aurait pas besoin de la foi. Hein. Mais Dieu garde des choses, et je pense que Dieu a un don qu'on ne doit pas lui enlever, c'est que Dieu a le don de ne jamais nous décevoir. Et je suis persuadé que ce qu'il est en train de réserver pour nous, eh bien, quand on va voir ça, on va dire, ça dépasse mon espérance. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Tout ce que j'ai pu imaginer. Et vous savez ce qu'on va faire à ce moment-là? On va rentrer dans un moment de louange, d'adoration, et on va adorer celui seul qui est digne d'être adoré, l'agneau de Dieu, qui efface le péché du monde. Amen.